Amroth et Nimrodel. J'ai déjà dit plus haut que si, à l'époque où il écrivait Le Seigneur des Anneaux, mon père avait vu dans Amroth le fils de Galadriel et de Celeborn, il n'aurait pas manqué de mentionner une parenté aussi notable. Quoi qu'il en soit, cette conception de la lignée d'Amroth fut rejetée par la suite. Je vais donner maintenant un court récit, datant de 1969 ou de plus tard, intitulé « Fragments de la légende d'Amroth et Nimrodel », brièvement relaté. Amroth était roi de la Lorienne, son père Amdir ayant trouvé la mort lors de la bataille de Dagorlad en l'année 3434 du Deuxième Âge. Après la défaite de Sauron, son pays connut la paix pour de nombreuses années. Bien que d'ascendance Sindarine, il vivait selon les usages des elfes sylvains et habitait dans les grands arbres qui couronnaient un haut tertre verdoyant appelé depuis lors Kerin Amroth. Et ainsi vivait-il en raison de son amour pour Nimrodel. Il l'aimait depuis maintes années et ne s'était point marié puisqu'elle ne voulait pas de lui pour époux. Elle l'aimait pourtant, car il était beau, même en regard des autres Eldar, et vaillant et sage. Mais elle appartenait aux elfes sylvains et regrettait la venue des elfes de l'Ouest qui, disait-elle, apportaient avec eux la guerre et troublaient la paix d'antan. Elle ne voulait employer que la langue des elfes sylvains même lorsque ce parler eût cessé d'être usité par les gens de la Lorienne. Et elle vivait seule aux abords des chutes de la rivière Nimrodel, à laquelle elle avait donné son nom. Mais lorsque la terreur surgit de la Moria, lorsque furent chassés les nains et qu'à leur place s'insinuèrent les orques, elle s'enfuit éperdue vers le sud, errant dans les solitudes, en l'année 1981 du Troisième Âge. Et Amroth la suivit, et enfin la retrouva à l'orée de la forêt de Fangorn, qui à l'époque s'étendait davantage vers la Lorienne. Elle n'osa s'enfoncer dans l'épaisseur du bois, car, disait-elle, les arbres la menaçaient, et certains manœuvraient pour lui barrer le passage. Et en ce lieu, Amroth et Nimrodel eurent un long entretien, et à la fin ils se promirent l'un à l'autre. « Je garderai ma promesse, » dit-elle, « et nous nous marierons dès que tu m'auras amené dans un pays où règne la paix. » Amroth fit serment que par amour pour elle, il quitterait son peuple, fût-il même dans le besoin, et qu'il irait avec elle en quête d'une terre de paix. Mais il n'en existe point actuellement en terre du milieu, dit-il, et pour le peuple des elfes, il n'y en aura jamais plus. Nous devons chercher à traverser la grande mer jusqu'à l'ancien pays de l'Ouest. Et il lui parla alors du Havre du Sud, où s'étaient réfugiés nombre de son peuple des années auparavant. Ils ne sont plus que quelques-uns car la plupart d'entre eux ont fait voile vers l'ouest. Mais ceux qui restent continuent à construire des navires et à offrir de faire passer la mer à tous ceux de leur peuple qui viennent à eux, là de la terre du milieu. On dit que la grâce que nous accordèrent les Valar, nous permettant de franchir la mer, est à présent étendue à tous ceux qui ont pris part à la grande marche, même s'ils ne sont pas arrivés jadis jusqu'au rivage et n'ont point encore contemplé le pays béni. Ce n'est pas le lieu où raconter leur voyage jusqu'au Gondor. C'était sous le règne du roi Éärnil le Second, avant-dernier roi du royaume du Sud, et des troubles agitaient le pays. Éärnil II régna sur le Gondor de 1945 à 2043. Ailleurs est relaté, mais de manière brève, comment ils furent séparés l'un de l'autre, et comment, après l'avoir cherché en vain, Amroth se rendit au Havre des Elfes et n'y trouva qu'une poignée encore s'attardant. Tout juste l'équipage d'un navire, et il ne leur restait qu'une seule nef capable de prendre la mer. Et avec ce vaisseau, ils s'apprêtaient à partir et à quitter la terre du milieu. Ils firent bon accueil à Amroth, heureux qu'ils viennent renforcer leur petit groupe, mais ils étaient peu disposés à attendre Nimrodel, dont, croyaient-ils, on ne pouvait plus guère espérer la venue. « Si elle est passée par les terres habitées du Gondor, » dirent-ils, « il ne lui sera arrivé aucun mal, et le cas échéant, elle aura été secourue, car les hommes du Gondor sont bons, et ils sont gouvernés par les descendants des amis des elfes d'antan, qui peuvent encore parler à leur façon notre langue. Mais dans les montagnes rôdent des hommes hostiles et des êtres malfaisants. »
La saison s'avançait et on touchait à l'automne, et sous peu de grands vents allaient souffler, des vents hargneux et dangereux, même pour les nefs des elfes, tant qu'elles voguaient au large des côtes de la terre du milieu. Mais le chagrin d'Amroth était tel qu'ils retardèrent tout de même leur départ durant de nombreuses semaines. et ils vivaient à bord de leur navire, car leurs maisons sur le rivage étaient toutes vides et dépouillées. Puis, avec l'automne, survint une nuit de grande tempête, la plus terrible qui fut consignée dans les annales du Gondor. Elle accourut de la froide désolation du nord et traversa, rugissante, tous les Riador jusqu'aux terres du Gondor, faisant grand ravage. Et sans vertu fut le rempart des montagnes blanches, et les vaisseaux des hommes furent nombreux à être emportés au large de la baie de Belfalas et perdus corps et biens. Quant au léger navire des elfes, il rompit ses amarres, et les flots en furie le chassèrent vers les côtes d'Umbar. Et en terre du milieu, on ne sut jamais ce qu'il était devenu. Mais les nefs des elfes, construites pour ces traversées, ne sombraient pas. Et sans doute quitta-t-il les cercles du monde et toucha-t-il enfin Eressëa. Mais il ne transporta point Amroth jusque-là. La tempête s'était ruée sur les côtes du Gondor, tout juste comme l'aube se risquait dans la turbulence des nuages. Mais lorsqu'Amroth s'éveilla, le navire était déjà en haute mer. Et appelant « Nimrodel » à voix forte, il se précipita désespéré dans les flots et nagea vers le rivage qui s'estompait à l'horizon. De leur vue perçante, les elfes navigateurs le virent longtemps qu'il luttait contre les vagues, jusqu'à ce que le soleil levant, perçant les nuées, alluma ses blonds cheveux comme une étincelle d'or. Et depuis lors, aucun œil, ni d'elfe ni d'homme, ne devait l'apercevoir en terre du milieu. Du sort de Nimrodel, il n'est rien dit ici, bien qu'il y ait maintes légendes à son sujet. Le récit ci-dessus prit corps, en fait, à la suite d'une discussion étymologique sur les noms de certains des cours d'eau de la Terre du Milieu. Il s'agissait en l'occurrence de la Gilrein, rivière du Lébénine au Gondor, qui se jetait dans la baie de Belfalas, à l'ouest de l'Ethir Anduin. Et une autre facette de la légende de Nimrodel devait émerger d'une discussion sur l'élément « Rhein », dérivé probablement de la racine « Ran », errer, se perdre, s'égarer, comme dans Mithrandir et dans le nom de la lune, Rana. Cela semble ne s'appliquer à aucune des rivières du Gondor, mais il arrive que les noms de rivières ne désignent qu'une partie seulement de leur cours, parfois les abords de leur source, ou bien leur cours inférieur, ou encore en raison de toute autre singularité qui se trouve avoir frappé les explorateurs qui les nommèrent. Toutefois, dans le cas présent, les fragments de la légende d'Amroth et de Nimrodel nous livrent une explication. La Gilrein dévalait la montagne comme toutes les autres rivières de la région. Mais lorsqu'elle atteignait l'extrémité des contreforts des Ered Nimrais, qui la séparaient de la Kelos, elle s'épanchait dans une vaste dépression peu profonde. Là, elle se perdait un temps pour former un petit lac à l'extrémité sud des montagnes, avant de creuser son lit à travers une falaise et de reprendre son cours tumultueux jusqu'à son confluent avec le Cerny. Lorsque Nimrodel s'enfuit de la Lorienne, on raconte que, cherchant à atteindre la mer, elle s'égara dans les montagnes blanches jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin, par quel sentier ou col on l'ignore, à une rivière qui lui rappela la sienne en Lorienne. Et le cœur allégé, elle s'assit au bord d'un bassin et elle contempla les étoiles qui se reflétaient dans les eaux enténébrées et prêta l'oreille au mugissement des chutes, là où la rivière reprenait son cours vers la mer. Et en ce lieu, elle tomba dans un profond sommeil, tant était grande sa lassitude, et elle dormit si longtemps qu'elle ne parvint pas à Belfalas avant que le navire d'Amroth ait été chassé au large, et alors Amroth s'était perdu en cherchant à regagner le Belfalas à la nage. Cette légende était bien connue à Dor Enernil, le pays du prince, qui reçut très certainement son nom en sa mémoire. Suit une brève explication des rapports entre Amroth, roi de la Lorienne, et la souveraineté de Celeborn et Galadriel en ce pays. Les gens de la Lorienne étaient, à l'époque, celle de la disparition d'Amroth, tels qu'ils se trouvèrent à la fin du Troisième Âge. Des elfes sylvains par leur origine, mais gouvernés par des princes d'ascendance Sindarin, comme ce fut le cas dans le royaume de Thranduil, dans la partie nord de Grand-Peur, bien qu'on ignore à ce jour si Thranduil et Amroth étaient apparentés. Toutefois, ils s'étaient beaucoup mêlés aux Noldor, de langue Sindarin, venus, eux, par la Moria, après la destruction de l'Eregion par Sauron, en l'année 1697 du Deuxième Âge. À cette époque, Elrond s'installa dans l'Ouest. Sans doute une simple manière de dire qu'il ne franchit pas les montagnes de brume, et il fonda le refuge d'Imladris. mais Celeborn se rendit d'abord en Lorienne et fortifia le pays contre toute nouvelle tentative de la part de Sauron de franchir le fleuve Anduin. Cependant, lorsque Sauron se retira au Mordor, et dit-on ne songea plus qu'à conquérir l'Est, Celeborn s'en fut retrouvé Galadriel au Lindon. La Lorienne connut alors de longues années de paix, dans la discrétion, sous le gouvernement de son propre roi Amdir, et ce, jusqu'à la submersion de Númenor et le brusque retour de Sauron en Terre du Milieu. Amdir répondit à l'appel pressant de Gil-galad, le conviant à rejoindre la Dernière Alliance, et il amena l'armée la plus considérable qu'il put rassembler, mais il fut tué à la bataille de Dagorlad, et avec lui, presque tous ceux qui l'avaient suivi. Amroth, son fils, devint roi. Ce récit diffère, on le voit sensiblement, de celui donné dans « À propos de Galadriel et de Celeborn ». Amroth n'est plus fils de Galadriel et de Celeborn, mais celui d'Amdir, un prince d'ascendance Sindarin. Le récit initial du rapport de Galadriel et Celeborn avec les Regions et la Lorienne semble avoir subi des modifications importantes, mais il est difficile de dire ce qui aurait été retenu dans un récit mené à terme. Le rapport de Celeborn à la Lorienne remonte ici à un passé plus lointain, car dans « À propos de Galadriel et Celeborn », il ne se rendit jamais en Lorienne durant le Deuxième Âge. Et nous apprenons ici que de nombreux elfes Noldorin passèrent par la Moria pour gagner la Lorienne après la destruction de l'Eregion. Dans le premier récit, il n'est pas question de cela. La migration des elfes beleriandiques en Lorienne survenant dans des conditions tout à fait pacifiques bien des années auparavant. De l'extrait que nous venons de donner, il ressort qu'après la chute de l'Eregion, Celeborn prit la tête du groupe qui émigra en Lorienne, tandis que Galadriel rejoignait Gil-galad au Lindon. Mais ailleurs, dans un écrit de même date environ, il est dit explicitement qu'à l'époque, c'est ensemble qu'ils franchirent la Moria avec une suite importante d'exilés Noldorin et séjournèrent de longues années en Lorienne. Dans ces écrits tardifs, on ne trouve rien ni pour confirmer ni pour infirmer la suggestion que Galadriel ou Celeborn ait été en rapport avec la Lorienne avant 1697. Et il n'est fait aucune autre allusion, hormis ce qui en est dit dans « À propos de Galadriel et de Celeborn », à la révolte de Celebrimbor, entre 1350 et 1400 environ, contre leur autorité en Eregion, ni au départ de Galadriel pour la Lorienne à cette époque-là, et au pouvoir qu'elle aurait assumé là-bas, tandis que Celeborn serait resté en Eregion. Au surplus, les récits ultérieurs ne précisent pas clairement où Galadriel et Celeborn séjournèrent durant les longues années qui suivirent la défaite de Sauron en Eriador au Deuxième Âge. Du moins, n'est-il nulle part ailleurs question de leur présence prolongée à Belfalas. L'évocation du personnage d'Amroth se poursuit ainsi. Mais au cours du Troisième Âge, des pressentiments assaillirent Galadriel et avec Celeborn, elle se rendit en Lorienne. Et il demeura longtemps auprès d'Amroth, s'attachant plus particulièrement à recueillir toutes les nouvelles et rumeurs touchant l'ombre qui gagnait sans cesse en forêt de Grand-Peur et la sombre forteresse de Dol Guldur. Mais le peuple était satisfait d'Amroth, car il était plein de vaillance et de sagesse, et son petit royaume avait encore prospérité et beauté. C'est pourquoi, après maints voyages d'investigation en Rhovanion depuis le Gondor et les confins du Mordor, jusqu'à Thranduil dans le nord, Celeborn et Galadriel franchirent les montagnes et regagnèrent Imladris, et ils y vécurent de nombreuses années. Car Elrond était leur parent, ayant épousé leur fille Celebrian au début du Troisième Âge, en l'année 109, selon le compte des années. Après le désastre de la Moria, en l'année 1980, et les malheurs de la Lorienne, endeuillée de son roi, car Amroth s'était noyé dans la baie de Belfalas et il ne laissait pas d'héritier, Celeborn et Galadriel revinrent en Lorienne et le peuple leur fit noble accueil. Et ils y séjournèrent tant que dura le Troisième Âge, mais ils n'assumèrent point le titre de roi ou de reine, car ils se voulaient, dirent-ils, seulement les gardiens de ce petit royaume si beau, avant-poste des elfes dans l'Est. Il existe ailleurs une autre référence à leur déplacement au cours de ces années. Celeborn et Galadriel revinrent par deux fois en Lorienne avant la Dernière Alliance et la fin du Deuxième Âge. Et au cours du Troisième Âge, lorsque l'ombre renaissante de Sauron s'éveilla, Ils y séjournèrent encore longtemps. Galadriel, dans sa sagesse, comprit que la Lorienne fournirait une place forte et un lieu de pouvoir pour empêcher l'ombre de franchir l'Anduin, lors de la guerre qui viendrait inévitablement, avant que cette ombre ne soit une nouvelle fois vaincue, si cela se pouvait. Mais cela exigeait une autorité plus forte et plus judicieuse que n'en possédait le peuple sylvain. Cependant, ce ne fut qu'après le désastre de la Moria, lorsque par des moyens que n'eût pu prévoir Galadriel, les forces de Sauron eurent bel et bien franchi l'Anduin, et tandis qu'un âpre péril menaçait la Lorienne, dont le roi était perdu et dont le peuple fuyait, désertant le pays et le livrant à l'occupation des orques, seulement alors Galadriel et Celeborn s'installèrent de manière permanente en Lorienne et y assumèrent le pouvoir. Mais ils ne prirent pas le titre de roi ou de reine, et ne se voulurent que les gardiens du pays qui, sous leur protection, devaient traverser inviolés la guerre de l'anneau. Dans une autre discussion étymologique qui date de la même période, une explication est donnée du nom d'Amroth, un nom évoquant la vie du roi sur les hauts Talan ou Flettes, les plateformes de bois construites tout en haut des grands arbres de la Lothlorienne où vivaient les Galadrim. Voir la Fraternité de l'Anneau 2-6. Le mot signifierait « grimpeur haut perché, haut juché ». Il est précisé ici que l'usage de vivre dans les arbres n'était pas coutumier aux elfes sylvains en général, mais s'était développé en Lorienne en raison de la nature et de la disposition du terrain. Un plat pays dépourvu de pierres de bonne qualité, sinon pour celles qu'on devait aller extraire des montagnes à l'ouest et qu'il fallait charrier péniblement le long de l'Argentine. La principale richesse de la Lorienne résidait en ses arbres, vestiges des grandes forêts des jours anciens. Mais même en Lorienne, la vie dans les arbres n'était pas une pratique partagée par tous, et les Telaines ou Flettes étaient à l'origine ou des refuges utilisés en cas d'attaque, ou alors, le plus souvent, des postes d'observation, surtout pour ceux installés à la cime des grands arbres, d'où la vue perçante des elfes pouvait surveiller les alentours et les lointains. Car après la fin du premier millénaire du Troisième Âge, la Lorienne était devenue un pays aux aguets, et depuis la fondation de Dol Guldur à grand-peur, Amroth vivait dans une inquiétude grandissante. C'est dans un flet, un poste d'observation de ce genre, utilisé par les guetteurs des marches septentrionales, que Frodo passa la nuit. La demeure de Celeborn, à Caras Galadon, était de même type, le flet le plus haut de tous, si haut que la Fraternité de l'Anneau ne le pouvait voir, et le point culminant du pays. Autrefois, le flet d'Amroth, à la cime du Grand Tertre ou colline de Kerin Amroth, construit par le labeur de mains multiples, était le plus élevé de tous et destiné principalement à surveiller Dol Guldur sur l'autre rive de l'Anduin. La conversion de ce Telaine en habitation permanente ne devait venir que plus tard et cet usage se limitait à Caras Galadon. Mais Caras Galadon était en soi une forteresse, et quelques-uns seulement des Galadrim habitaient en son sein. Vivre dans ces hautes habitations fut certainement jugé au début chose très singulière, et Amroth fut sans doute le premier à s'y hasarder. Et il tint probablement son nom, le seul dont se souvient la légende, du fait de vivre dans un talan haut perché. Une note appendue au mot « Amroth fut sans doute le premier à s'y hasarder » précise « À moins que ce ne soit Nimrodel, mais ses motifs étaient différents. Elle aimait les eaux vives et les rapides de la Nimrodel dont elle souffrait d'être éloignée. Mais les années allaient s'assombrissant et la rivière se trouvait trop proche des confins nord dans une partie du pays où ne s'attardaient plus guère les Galadrim. C'est peut-être grâce à elle qu'Amroth fut pris de l'idée d'habiter tout en haut d'un flet. » Revenons à la légende d'Amroth et de Nimrodel donnée ci-dessus pour nous demander quel était le havre du sud où Amroth attendit la venue de Nimrodel et où, lui dit-il, s'était réfugié nombre de son propre peuple des années auparavant. Deux passages du Seigneur des Anneaux portent sur ce point. L'un figure dans la Fraternité de l'Anneau, 2-6, où Légolas, après avoir chanté la complainte d'Amroth et de Nimrodel, parle de la baie de Belfalas, d'où les elfes de Lorienne prirent la mer. L'autre se trouve dans le Retour du Roi, 5-9, où Légolas, considérant le prince Imraïl de Dol Amroth, voit qu'il est assurément un homme qui avait du sang elfique dans les veines, et lui dit « Il y a longtemps que les gens de Nimrodel ont quitté les bois de Lorienne, mais l'on peut voir encore aujourd'hui que tous n'ont pas quitté le havre d'Amroth pour faire voile vers l'ouest. » À quoi le prince Imraïl répond « C'est ce qu'on dit dans la tradition de mon pays. » Des notes tardives et fragmentaires apportent quelques éclaircissements. Ainsi, lors d'une discussion sur les rapports politiques et linguistiques en Terre du Milieu, datant de 1969 ou plus tard, il est brièvement dit qu'au temps des premiers établissements fondés par les premières colonies de Nouménor sur les rives de la baie de Belfalas, celle-ci était encore pratiquement déserte, sinon pour un havre et une petite colonie d'elfes au sud du confluent du Morthond et du Ringlo, c'est-à-dire juste au nord de Dol Amroth. Selon les traditions de Dol Amroth, cette petite colonie avait été fondée par des Sindar, navigateurs venus des havres occidentaux du Beleriand, et qui avaient pris la fuite dans trois petits navires lorsque la puissance de Morgoth triompha des Eldar et des Atani. Mais par la suite, vinrent la renforcer des elfes sylvains aventuriers qui, errant en quête de la mer, avaient descendu le cours de l'Anduin. Les elfes sylvains, comme on le note ici, ne furent jamais complètement délivrés d'une certaine agitation et d'un languir de la mer qui par moments incitait certains d'entre eux à abandonner leur foyer pour vagabonder au loin. Pour faire le lien entre le récit des trois petits navires et les traditions rapportées dans le Silmarillion, il nous faudrait probablement voir dans les elfes en question des rescapés de Brithombar ou d'Eglarest, les havres du Falas sur la côte ouest du Beleriand, qui auraient échappé à la destruction de ces ports au lendemain des Nirnaeth Arnoediad. Círdan et Gil-galad se réfugièrent quant à eux sur l'île de Balar, tandis que les équipages de ces trois navires descendirent la côte plus au sud, poussant jusqu'à Belfalas. Mais une version tout autre, faisant de la fondation de ce port elfique un événement beaucoup plus tardif, figure dans un fragment inachevé sur l'origine du nom Belfalas. Il y est dit que si l'élément « Bel » est certainement dérivé d'un nom prénuménoréen, il est néanmoins d'origine sindarine. La note s'interrompt avant qu'on en sache plus long sur « Bel », mais la raison alléguée de ses origines sindarines est la suivante. Il y avait au Gondor un phénomène restreint mais significatif et de type assez exceptionnel. Une colonie Eldarine. Lorsque le Thangolodrim fut jeté bas, les elfes du Beleriand qui ne prirent pas la Grande Mer ou ne s'installèrent pas au Lindon s'en allèrent à l'aventure par-delà les montagnes bleues jusqu'en Eriador. Mais il y aurait eu un groupe de Sindar qui, semble-t-il, au début du deuxième âge, aurait gagné le sud. Il s'agissait de rescapés du Doriath qui avait gardé rancune au Noldor. Et après s'être installés quelque temps au Havre Gris, où ils apprirent l'art de la construction navale, les années passant, ils s'en allèrent en quête d'un lieu pour s'y établir à leur guise et s'installèrent finalement à l'embouchure du Morthond. Et s'y trouvait déjà un port de pêche rudimentaire. Mais à la vue des Eldar, les pêcheurs se réfugièrent dans les montagnes. Dans une note écrite en décembre 1972, ou même plus tard, et qui représente l'un des derniers écrits de mon père au sujet de la Terre du Milieu, il est question du sang elfique qui persiste chez les hommes, observable dans l'aspect glabre de ceux qui ont telle ascendance. Un trait caractéristique des elfes étant cette absence de barbe. Et il est précisé ici, à propos de la maison princière de Dol Amroth, que d'après ses propres légendes, cette lignée était marquée par son sang elfique. Ceci en référence à la conversation entre Legolas et Imraïl dans Le Retour du Roi 5-9 cité plus haut. Comme le montre la référence que fait Legolas à Nimrodel, il y avait un ancien port elfique aux environs de Dol Amroth et une petite colonie d'elfes sylvains originaires de Lorienne. La légende de la lignée princière voulait que l'un des premiers ancêtres ait épousé une dame des elfes. Dans certaines versions, on la donnait, sans grande vraisemblance, pour Nimrodel en personne. Dans d'autres récits, plus probables, la dame en question aurait été une compagne de Nimrodel qui se serait égarée dans les vallées des montagnes. Cette dernière version apparaît sous forme plus détaillée dans une note appendue à une généalogie non publiée de la lignée de Dol Amroth remontant à Angelimir, le 20e prince, père d'Adraïl, père d'Imraïl, prince de Dol Amroth à l'époque de la guerre de l'Anneau. Selon la tradition de sa maison, Angelimir était le 20e de la lignée descendant directement de Galador, premier seigneur de Dol Amroth, vers les années 2004-2129 du Troisième Âge. Toujours selon cette tradition, Galador était le fils d'Imrazor le Numenoréen, qui vécut à Belphalas, et de la dame elfe Mithrelas. Elle était une des compagnes de Nimrodel et l'un des nombreux elfes à fuir vers la côte aux environs de l'année 1980 du Troisième Âge, lorsque le mal s'aviva en Moria. Et Nimrodel et ses compagnes errèrent dans les collines boisées et s'égarèrent. Mais dans le présent récit, on apprend qu'Imrazor offrit refuge à Mithrelas et l'épousa. Mais lorsqu'elle lui eut donné un fils, Galador, et une fille, Gilmith, elle se déroba dans la nuit, et plus jamais il ne devait la revoir. Bien que Mithrelas appartint au peuple moins noble des elfes sylvains, et non point aux hauts elfes ou aux elfes gris, on a toujours considéré que la maison et la famille des seigneurs de Dol Amroth étaient de sang noble, tout comme ils étaient de belle apparence et de bel esprit.